Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Marie Messmer, militante LFI, candidate des Insoumis aux Européennes, 17e sur la liste de l'Union Populaire, liste conduite par Manon Aubry. Et vous avez fait le déplacement depuis Brest pour être avec nous ce matin avec un comité de soutien important. Je crois qu'on est 7 dans le studio. Voilà, on va être obligé de pousser les murs. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bonjour.
Bonjour et bonjour à tout le monde et merci à vous de nous accueillir. En effet, on est venu avec un petit nombre parce que c'est toujours agréable de voir comment la culture, les échanges se construisent. Et puis bon, bah voilà, c'est la fin de campagne, petite récompense. Et aussi parce que derrière, on enchaîne, nous, voilà, sur des caravanes populaires. Donc voilà, comme ça, ils sont tout de suite avec moi pour aller militer. C'est super.
Voilà, ils sont sages dans le studio. On va parler de l'Europe, on va parler de politique ce matin. C'est un petit peu le but. Dans cette dernière ligne droite, hein, vous le disiez, Marie Messmer, dernière ligne droite de la campagne. Une campagne qui a été très chahutée dans un contexte que l'on sait assez particulier. On a beaucoup pointé du doigt la France insoumise. C'est encore arrivé hier puisque la députée Rachel Keke a brandi un drapeau palestinien dans l'Assemblée, à l'Assemblée nationale, ce qu'avait fait Sébastien Delogu, son collègue, il y a quoi, une semaine. Voilà, alors on vous accuse de faire de la provocation.
Bouf. Bah en fait, on nous accuse de beaucoup de choses, hein, de tous les mots peut-être. Par contre, on nous dit pas qu'on est les seuls qui sommes un peu humains et qui allons rechercher la dignité et la parole française, parce que là, elle se fait attendre. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que, en effet, Sébastien Delogu, il a pris 2 semaines. Au même moment, en Italie, il y a eu plusieurs drapeaux aussi dans le Parlement, alors que c'est un gouvernement fasciste quand même en Italie, hein, de Giorgia Meloni, il n'y a pas eu de sanctions. Il y a quelques temps, il y a un député qui a fait un salut nazi dans l'Assemblée nationale, il a eu un avertissement. Il y a eu le drapeau israélien avec plein de badges qui sont restés sur l'ensemble des membres du Parlement juste après, au lendemain du 7 octobre, mais aussi pendant quelques jours. Là, c'est pareil, il n'y a rien eu. Et nous, tout ce qu'on se dit, c'est que là, il y a 40 000 morts et qu'il est temps de regarder la Palestine. Et donc, en effet, ils ont fait rentrer le drapeau palestinien dans l'Assemblée nationale. Ils l'ont montré. Sébastien l'a fait une fois. Rachel Keke l'a fait encore hier. Et voilà, en fait, ils demandent la fin de l'indignité et que les gens regardent à plein yeux, sans mettre des œillères, ce qui se passe en Palestine. Et moi, je veux dire que je suis très fière parce que, justement, on ne prend pas ça à la légère, qu'on n'est pas hypocrite sur le sujet par rapport à ce que vous disiez. Et puis, je me dis, ça va peut-être mettre aussi le bureau de l'Assemblée nationale face à ses responsabilités. Qu'est-ce qu'ils attendent? Que là, de sanctionner de 2 semaines l'ensemble des députés qui veulent une réaction et le cessez-le-feu, qui ont une parole de paix. Non, mais c'est invraisemblable. Donc, voilà, le drapeau palestinien est rentré à l'Assemblée nationale, comme il est aussi partout. Aujourd'hui, je suis avec mon kéfier, moi aussi, sur moi. Et ben, il partira quand le cessez-le-feu sera là. Mais pour ça, il faut que la France, l'Union européenne, se positionne.
Il faut arriver à faire dialoguer ces deux peuples, le peuple israélien et le peuple palestinien. Il faut arriver à les faire dialoguer en dehors de la guerre, allais-je dire.
Ah, mais bien évidemment qu'il faut remettre de la diplomatie et aller vers la paix. Mais là, on est avant même l'idée de dialoguer. Il faut un cessez-le-feu, il faut que les armes cessent, il faut que la France arrête de livrer ses armes parce qu'on a beaucoup de partenariats d'armement avec Israël. Et puis, il faut aussi qu'il y ait encore des Palestiniens qui puissent parler. Parce que je ne sais pas ce que Macron attend, là, reconnaître l'État de Palestine à titre posthume, qu'il n'y ait plus aucun Palestinien pour parler, pour négocier. Donc nous, évidemment, on veut la reconnaissance de l'État palestinien et tout de suite. Et qu'il puisse être reconnu dans ces négociations, dans ces échanges, qu'il y ait encore une voix du côté des Palestiniens et qu'on revienne justement à ce qui se passait avant 67, avant la guerre des 6 jours, c'est-à-dire deux États avec des frontières bien claires et un respect de chacun. Et je veux aussi vous signifier que ce matin il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une tribune de personnalités, d'artistes, de youtubeurs, de même Renaud par exemple, je l'ai vu, mais tout un tas de chanteurs, de rappeurs, d'artistes qui disent non mais quand même la France, quelle indignité, le pays des droits de l'homme, qu'est-ce que Macron attend encore? Elle est bien muette, la France.
La France doit se positionner, finalement, très vite.
Il est plus que temps, hein. Je ne sais pas ce qu'elle attend. Encore une fois, je vous dis, est-ce que c'est qu'il n'y ait plus aucun Palestinien ou une Palestinienne sur le territoire? On est sur le premier génocide, et je pèse bien mes mots quand je dis génocide, et je pourrais l'expliquer, à ciel ouvert, filmé, documenté. pour la profession des journalistes. Il y a un nombre incalculable de vos confrères qui sont morts sur le terrain là-bas. Le nombre d'enfants morts en Palestine a dépassé le nombre d'enfants morts en 4 ans sur l'ensemble des conflits internationaux. C'est évidemment un enjeu principal, mais en plus, ce que je veux dire, c'est qu'on a des moyens faciles d'action. On est le premier partenaire commercial d'Israël. Donc on dit souvent, oui, j'ai entendu ça, qu'on était des électoralistes et que la Palestine n'avait rien à faire dans l'Europe. Mais on a un accord d'association. On vend des armes, je peux vous donner, hein, des entreprises. J'en ai plein devant moi, mais Dassault, Thales, Airbus, dans lesquelles l'État français est actionnaire. Mmh. Et en plus de ça, on a cet accord d'association, ces ventes d'armes, mais aussi cet accord d'association qui est subordonné au fait de respecter les droits humains, mais à la fois dans l'Union européenne et en Israël. Donc on avait les moyens depuis longtemps de faire. On a aussi beaucoup d'entreprises européennes qui sont sur place, et donc il y a un appel à boycotter avec BDS. Donc voilà, là c'est vraiment la question de notre humanité collective, le miroir de notre humanité, vraiment c'est l'avenir en commun que l'on souhaite, et il faut stopper, mais tout de suite, cette indignité. Et je pense que faire un embargo sur les armes, le boycott et stopper l'accord d'association avec Israël, c'est pas demander la lune, c'est le moindre, c'est le minimum vu le nombre de morts qui s'y passent. Et en plus, on est loin des quotas de morts. Voilà, il faut juste, pour moi, un tout petit peu de dignité et de courage politique. Je crois que notre gouvernement a été vraiment très très loin par rapport à l'histoire française, et je suis contente que la société qui avait peur de toutes ces accusations d'antisémitisme qui n'avaient aucun sens, aujourd'hui soit dans la rue, énormément de jeunes et d'artistes aujourd'hui. Et je tiens à dire aussi, en tant qu'ancienne responsable syndicale d'un syndicat étudiant national, la fierté que j'ai vue de voir ces étudiants être les premiers à dénoncer, alors qu'ils ont été hyper réprimés, quoi. Mmh. Et puis, je veux dire aussi, la gauche, quand même, n'a pas été en reste. Elle n'a pas accompagné ça. Puisque, par exemple, nous, on a déposé le 25 avril dernier un amendement qui demandait de condamner la répression des personnes qui protégeaient la Palestine. Marie Toussaint et M. Glucksmann, qui sont tête de liste tous les deux, se sont abstenus au Parlement européen sur cet amendement qui leur demandait rien du tout. Mais ça, c'est juste quelque chose, enfin, parce que derrière, je peux vous parler de Raphaël Glucksmann qui a refusé de voter l'embargo sur les armes, j'ai plein de choses à dire. Qui a aussi, d'ailleurs, j'en parle parce que je fais le lien juste, mais Raphaël Glucksmann a dit qu'il fallait bien réprimer ces étudiants de Sciences Po qui bloquaient l'enseignement. Mais en fait, avant de bloquer ces étudiants, ils ont demandé le débat, ils ont demandé des discussions avec leur direction, ils ont manifesté, personne ne les a entendus. Donc nous, on ne vous dit pas qu'il faut vous réprimer, on vous dit aussi quelle fierté et merci d'avoir été là, la dignité de la France, voilà.
Alors, ça nous amène à l'Europe, finalement. Et là encore, avec l'ombre de ce conflit au Proche-Orient, avec plusieurs pays qui reconnaissent l'État de Palestine, le dernier en date, c'est la Slovénie. Est-ce que c'est un signal fort, selon vous ?
Bien sûr. Je crois que c'est 143 sur 193.
Je n'ai pas le chiffre, pour être très honnête avec vous.
C'est peut-être 153, non, mais il me semble vraiment de mémoire que c'est 143 sur 196. Vous vous rendez compte de la proportion ? Même Chirac, à son époque, disait qu'il fallait reconnaître l'État de Palestine. On a des discussions depuis des années sur ce sujet, depuis 48, depuis la Nakba, 67, après la guerre des six jours, il y a eu Oslo en 93, enfin voilà, je peux vous en citer énormément. Depuis la Nakba, l'ONU a fait 25 résolutions et encore plus de c'est pas le terme directive, mais enfin voilà, on le sait depuis toujours, il y a un sujet de colonisation aussi en Palestine, on n'est pas en train de le découvrir. Tous ceux qui disent aujourd'hui, qui découvrent et que tout ça commence le 7 octobre, c'est des menteurs, des hypocrites à travers l'histoire, parce que tout est documenté depuis des années. Et donc, pour revenir à votre question, alors excusez-moi, je me suis perdue.
Alors je vous demandais si c'était un signal fort, finalement, cette reconnaissance.
C'était ça, voilà. C'est plus qu'un... Oui, c'est aussi reconnaître la voix des Palestiniens dans des négociations. C'est pas se dire c'est un État qui n'existe pas et du coup et donner toute puissance encore plus à Israël, l'impunité pour les réduire à néant puisque de toute façon il n'existe pas. Et que ce territoire n'appartient à personne, c'est faux. Il y a des traités internationaux, énormément de résolutions qui sont documentées, qui disent que l'État de Palestine existe, et c'est le moindre mal de faire ça maintenant pour justement leur donner la voix dans cette négociation, dans leurs droits, sur leur territoire.
Voilà. Alors, on va arriver à des sujets européens. Il fallait vous entendre, évidemment, sur la Palestine.
Oui.
À des sujets européens, finalement, on n'est pas éloigné tant que ça de l'Europe. Alors, je voulais commencer par l'expression présidentielle. On a le président de la République qui va être interviewé demain soir sur TF1 et France 2 dans les JT de 20h à l'occasion des 80 ans du débarquement. Est-ce que cette parole, dans cette dernière ligne droite de la campagne, finalement, c'est la parole présidentielle ou c'est la parole d'un candidat ? Ou d'un soutien d'un candidat ou d'une candidate, en l'occurrence Valérie Allier, aux européennes?
Bah oui, il y a deux choses. J'entendais en arrivant ce matin aussi qu'il a parlé apparemment à la télé hier soir ou avant-hier soir, que là il va être accompagné de Zelensky qui va venir dans l'Assemblée nationale, alors qu'on sait très bien qu'ils font campagne, eux par exemple, sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, ce que nous refusons. Actuellement pour des raisons de dumping social, de dumping fiscal et d'écologie. Enfin, il y a tout un tas d'aspects que je ne vais pas argumenter. Je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois. Mais moi, il y a deux choses sur lesquelles je veux revenir sur la question de Emmanuel Macron. Enfin, même peut-être trois. Le premier, c'est que je trouve qu'ils sont vraiment assez atroces avec Gabriel Attal sur leur candidate Valérie Allier à prendre sa place. Mais quelle image, elle n'est pas assez compétente après un mandat de 5 ans. Elle est présidente du groupe là-bas. Enfin, je veux dire, pourquoi ils l'ont mis candidate si c'est pour faire campagne à sa place, tête de liste. Je trouve que c'est un peu quand même. Enfin, moi, je ressens ça comme quelque chose de sexiste, en fait. Je vais être très claire. Ensuite, Macron, il a l'impression d'être le sauveur de sa campagne, mais qu'il fasse campagne lui ou un autre, ça ne changera rien. Les Français, en fait, ils n'en peuvent plus de la politique de Macron. Ils ont déjà compris les plans d'austérité, la réforme des retraites qui est passée quand même à coup de 49. Enfin, vraiment. Mettre à sac le droit des travailleurs, la démocratie, l'unité aussi du pays, ou alors tous ces discours va en guerre, mais on en discutait, mais à aucun moment je veux que mes frères, par exemple, partent en guerre. On n'a pas, enfin, c'est pas possible. Donc, qu'ils fassent campagne, je pense que ça les fait perdre. Et puis en plus, c'est la troisième chose que je voulais dire, ils nous ont reproché de dire que c'était un référendum là, sur ces élections.
Une par sorte rapport, de primaire, finalement.
Voilà, une primaire aux présidentielles qui sont les prochaines élections nationales. Mais en étant sur le terrain comme il est aujourd'hui, comme Gabriel Attal le fait aussi, c'est eux qui font un référendum sur leur politique gouvernementale et depuis des années, leur politique libérale de casse des conquis sociaux, des services publics, enfin voilà. Donc, mais je pense que ça vaut pas le coup de commenter plus que ça ce que fait Macron. On pourrait en dire plein d'autres choses et tout le monde est assez d'accord sur le sujet. Voilà.
Voilà, donc les électeurs se prononceront le 9 juin sur les différentes listes. Alors, la liste que vous portez, c'est une liste de gauche, la liste LFI, évidemment, avec des points importants. Alors, j'ai été consulter le site internet de cette liste portée par Manon Aubry.
Qui est extrêmement bien fait, avec beaucoup de chapitres et beaucoup de contenu.
Alors moi, j'ai retenu des grandes lignes, le blocage des prix, la fin des accords de libre-échange, la paix en Ukraine, évidemment, le cessez-le-feu à Gaza, la retraite à 60 ans et la défense des services publics, et une bifurcation écologique. Alors j'avais envie de vous entendre justement sur cette bifurcation écologique. Aujourd'hui, on a un parti, les écologistes, qui se présentent également aux européennes. Est-ce que finalement, l'écologie, c'est pas l'apanage de tous les partis et pas exclusivement d'un parti?
Je pense que c'est un peu faux, parce qu'en fait, l'écologie, elle a 50 nuances et il faut regarder ce qu'on y met. Là, je peux vous faire une analyse de. Enfin, je vais vous dire beaucoup de choses. Nous, ce qu'on met derrière la bifurcation écologique, c'est la règle verte, c'est-à-dire ne pas prendre plus au vivant que ce qu'il a à nous donner. Et c'est aussi investir dans la question de la planification. C'est une industrie de toute puissance en France qui va pouvoir apporter de l'emploi, refaire les réseaux d'eau, reprendre le panneau solaire. Parce que, par exemple, aujourd'hui, seulement 3% des panneaux solaires sont faits en France, le reste est en Chine. Voilà. Après, donc, il y a plein de choses. Permettre une mesure écologique qui m'est chère, permettre aux jeunes d'étudier, de se former à tout le monde, sans Parcoursup, avoir un esprit critique et pouvoir répondre aux grands enjeux sociétaux, économiques et écologiques. On a besoin de techniciens, on a besoin d'ingénieurs. Mettre en place un grand tribunal international de justice avec un crime international d'écocide, taxer les biens polluants, c'est-à-dire les yachts, les jets privés, les produits luxe. Donc je peux vous détailler notre programme, il est très complet. Maintenant, vous dire. La différence entre notre écologie et l'écologie des Verts, parce que c'était la question, quel Vert déjà, parce que Governatori, qui se présentait à la candidature d'Europe Écologie Les Verts, vient de proposer une liste qui s'appelle Écologie au Centre, donc là c'est l'écologie à droite en fait, voilà. Ensuite, je vais vous dire, Il y a deux manières de faire de l'écologie. Il y a de l'écologie de rupture et se dire qu'on n'a plus le temps et que c'est maintenant. Et il y a une autre manière qui est de danser et d'appeler à la bonne sympathie des gens. Et voilà, donc ça, c'est deux philosophies différentes. Je vais vous dire aussi, au sein d'Europe Écologie Le Vert, s'ils n'ont pas une voix hyper forte, c'est qu'ils ont eux-mêmes en interne plusieurs nuances qui font qu'ils ont du mal à se positionner sur des choses très très importantes. Et je vais vous dire une grande nuance entre nous, c'est la question des traités de libre-échange. Nous, on pense qu'ils sont hyper polluants. Par exemple, importer...
On entend un téléphone dans le studio.
Importer voilà. Du lait de Nouvelle-Zélande, ça, d'un point de vue écologique, ça a une grande empreinte. Mais en plus, le lait de Nouvelle-Zélande peut utiliser l'atrazine, qui est un pesticide qui est interdit dans l'Union européenne. Je pouvais vous donner le même exemple avec les accords CETA du Canada. Enfin, voilà,
il faut les dénoncer, ces accords-là. Il faut les...
Mais nous, on est les seuls à ne pas donner une voix. C'est pour ça que je vous en parle. C'est que notre groupe, la France Insoumise, plus le groupe de la gauche, on est les seuls à ne pas donner une seule voix à ces accords de libre-échange. Les Verts, individuellement, peuvent ne pas donner de voix à ces accords de libre-échange. Des fois, dire ah, finalement, c'est bien. Mais ils font partie d'un groupe, les Verts, on va dire, international, qui, eux, n'est pas... qui encore moins, disons, de gauche que les Verts français peuvent l'être.
Et qui peut avoir finalement d'autres positions.
Oui, et beaucoup trop de nuances. Et ce qui fait que la parole forte, écologique et de rupture n'est pas là. Elle n'est pas là, elle ne se confronte pas aux grands milliardaires qui sont les plus polluants. Et je veux dire aussi, en 2019, aux dernières élections européennes, il y avait les grandes marches pour climat. Les jeunes investissaient la rue pour demander une réponse urgente à la crise écologique. 5 ans plus tard, la réponse, elle se fait attendre quand même. Et à l'époque, les jeunes avaient augmenté leur participation aux élections européennes. C'est la classe d'âge qui vote le moins. Et en fait, ils s'étaient plutôt retournés vers Europe Écologie Les Verts. Et donc, Europe Écologie Les Verts avait fait 12 ou 13%. Depuis 5 ans, la force écologique qui pose les mots d'ordre, planification, règles vertes, prix plancher, urgence écologique, et qui a lié la question écologique à la question sociale, c'est la France Insoumise qui a été congruente jusqu'au bout et combative sur le terrain auprès des jeunes. Et les jeunes, ils ne s'y trompent pas à ça. Et ce que je veux dire d'ailleurs, vu qu'on parle des jeunes, c'est qu'ils ont une énorme force de frappe là, sur ces élections. Ils ont la capacité de faire basculer le vote. Et voilà, je les remercie d'être toujours, de soutenir la France Insoumise et d'y aller et d'avoir envie d'un projet de société qui n'est pas celui qu'on nous promet aujourd'hui. Libéralisme, traité de libre-échange, le fascisme qui monte sur les inégalités et le nôtre, celle où le partage des richesses est un sujet qu'on peut poser sur la table, qui protège le droit des travailleurs et des travailleuses, la jeunesse, les étudiants et aussi l'environnement. Donc voilà, je suis sûre et certaine que la congruence écologique, elle est chez nous.
Alors on va parler tout à l'heure effectivement d'économie hein, avec la France qui est un peu à la peine, qui a vu sa note dégradée. Je voulais juste vous entendre, vous parler de la montée des populismes finalement en Europe. On voit le Rassemblement National qui est promis à plus de 34%, ce qui est assez impressionnant dans les sondages. Alors en gardant une grande prudence, il s'agit de sondages. J'imagine que c'est quelque chose qui vous met en colère, qui vous trouble, qui vous inquiète ?
Que j'analyse. Mais je pense, encore une fois, c'est pareil, il faut répondre sur plusieurs points et pas... Donc je vais le faire en essayant d'être rapide. Déjà, comme vous dites, il faut vraiment une critique sur les sondages. Ils ont toujours été très, très mauvais pour nous évaluer, nous, ou pour évaluer les RN il y a quelques temps, il y a quelques années, où, par exemple, ils arrivent au second tour, on s'y attendait pas, quoi. Et Bourdieu, qui est un sociologue, en a fait une grande critique, donc je vais pas aller plus loin sur ma critique, mais juste à dire que je suis sûre qu'ils sont très mauvais et qu'on va faire une commission d'enquête. Derrière, on propose une commission d'enquête parce qu'on est sûr d'être encore très, très mal évalué par les sondages. Ce que je veux vous dire sur le Rassemblement National et cette montée-là, c'est que clairement, il faut l'entendre comme un vote de colère. Il y a évidemment des personnes qui sont convaincues par le vrai RN, c'est-à-dire le Front National, qui n'a pas juste mis une cravate et a policé son langage. Et il y en a d'autres qui l'acceptent parce que justement, il y a la cravate et le langage a été policé. Et je comprends ce vote de colère parce qu'il a été créé par l'austérité, la pauvreté qui a augmenté. Et là, on a les plus riches qui ont augmenté leur fortune, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà un seuil de fortune énorme de 230 milliards d'euros pendant que nous, on s'enlise et qu'on rentre dans la pauvreté. 535 000 pauvres en plus sur la même période. Il y a les services publics qui sont cassés, notamment des services publics de proximité, le droit au travail qui n'est pas respecté parce que c'est un droit dans la Constitution. Et donc, je peux seulement dire que je les comprends et aussi analyser pourquoi et leur dire vous pensez, ce qu'on entend souvent, c'est on a tout essayé, mais ça n'a pas fonctionné, on va essayer ça. Moi, je dis attention, Peut-être que vous croyez avoir essayé la gauche, mais la gauche de Hollande, ça ne sera jamais ma gauche. La gauche de Hollande et de ce que Glucksmann est en train de faire, puisque c'est un Hollande bis, c'est la gauche de la trahison. On le voit avec 2005. J'ai regardé un reportage sur YouTube, voilà, je peux le dire, sur 2005, qui est magnifique, magistral. On voit Jean-Luc Mélenchon très stable sur ce qu'il dit, qui est le même, qui veut la souveraineté du peuple, et Hollande qui est en train de trahir à l'époque. Glucksmann, on voit qu'il fait la même chose. Et là, il vient de revenir sur la retraite à 60 ans. Quand même, on l'a écrit, ce programme commun de la NUPES, il y a 2 ans ensemble. Il n'a pas été là pour soutenir les travailleurs et les travailleuses dans la rue. Et il revient sur la retraite à 60 ans, mais pas uniquement, hein, sur les méga-bassines, le nucléaire aussi. En fait, voilà, c'est encore l'exemple de la trahison des travailleurs et des travailleuses. Et je reviens sur le RN parce que c'était le sujet. Je veux dire aussi et avertir tout le monde. Le Rassemblement National, c'est des racistes, des xénophobes, et ils ont toujours été contre l'avancée des droits des travailleurs et des travailleuses. Et il faut être clair. Pour ça, je veux vous dire quelque chose. Ils ont voté avec les macronistes contre l'augmentation des salaires, contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre le gel des loyers, contre la rémunération des stagiaires et des apprentis, contre la taxation des super profits, contre une loi qui pouvait lutter contre les déserts médicaux, contre les prix planchers, contre le droit à l'IVG des femmes, contre l'égalité salariale homme-femme au Parlement européen. Ils ont voté aussi un texte qui voulait condamner l'association de l'homophobie à la pédophilie que la Hongrie a fait. Ils ont voté contre. Ils ont voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Ce sont, en fait, si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer que, à jamais, ils ont été les alliés des travailleurs et des travailleuses, des droits humains, et donc, de la société. Nous, au contraire, on a toujours été fidèles aux droits humains, à aller sur des avancées même, à préserver les conquis parce qu'ils sont en train d'être détruits partout, mais aussi à aller chercher d'autres. Et là, ce que je veux vous dire, c'est que le Rassemblement National, ça s'arrange très très bien du système. C'est la phase des deux pièces avec les macronistes du système en place. Ils adorent l'Europe des plus riches, il n'y a aucun problème. Mais il y a le discours, et attention, parce qu'avec eux, vous allez perdre beaucoup, même peut-être autant que Macron, c'est sûr, voire peut-être plus, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Et ils ne seront jamais vos alliés. Doutez de la cravate, doutez de la voix policière. Et je vous redis, la jeunesse, vous avez une force de frappe. Vous pouvez changer ces élections. Ne croyez pas au fascisme, à leur histoire. Croyez plutôt à l'histoire de l'humanité qui est la nôtre et des conquis de la gauche pour la société. Pas uniquement la gauche d'Hollande, mais la vraie gauche, celle de la rupture, la mienne, celle avec beaucoup d'idéaux. Voilà.
Alors, la gauche, c'est aussi l'économie, parce qu'on a l'impression que la gauche ne parle jamais d'économie. Or, vous en parlez dans votre programme. L'économie est la répartition des richesses. Alors, quelles mesures... Alors, on ne va peut-être pas tout détailler, parce que le temps file, et on n'aura pas le temps de balayer tous les sujets de toute façon, mais quelle voie préconisez-vous, finalement, pour partager les richesses, pour qu'il y ait ce fameux ruissellement qui était appelé de ses voeux par le président de la République il y a quelques mois? Comment lutter aussi contre les inégalités économiques et sociales?
Réponse très simple. Déjà, le ruissellement, on entend parler de cette théorie du ruissellement depuis les années 1945, en sortir de la guerre, par des économistes américains, deux économistes. Bon, est-ce que vous avez vu ruisseler, vous? Moi, à part le chômage, la montée des inégalités, la casse de la réforme du chômage, la casse des retraites, le RSA conditionné à des heures de travail, moi, j'ai rien vu ruisseler, à part justement tout ce qui avait été les acquis, notamment du Conseil national de la résistance pour les travailleurs et les travailleuses. Donc, la théorie du ruissellement, on laisse tomber, si ça ruisselait, ça le serait. Par contre, est-ce que vous voyez la taxation des super-profits? Est-ce que vous avez vu les impôts sur les grandes fortunes, ISF annulé, le crédit impôt recherche là qui est donné et sans avoir à se justifier, la CVAE? Donc je vous dis, voilà, Bruno Le Maire, il dit qu'il veut pas augmenter les impôts. Moi, je lui propose, dans plusieurs discours que je fais, un plan, rétablir l'ISF, supprimer le crédit impôt recherche, supprimer le CVAE, il y a plein de choses, mais surtout aussi, si le CAC 40, donc 40 entreprises, a 1000 filiales dans les paradis fiscaux, c'est bien qu'il s'y passe des choses. Donc allez y voir aussi au lieu de taper sur les personnes qui sont déjà les plus vulnérables. Et donc, avec tout ça, on fait 90 milliards de recettes fiscales et pas de dépenses, en mettant des impôts, mais pas pour 90% de la population, en effet, seulement pour les 10% les plus riches. Nous, on veut la taxation des super-profits à l'échelle européenne. Comme je vous disais tout à l'heure, taxer les biens polluants, les yachts, les jets privés et une TVA sur les produits de luxe. Et je suis désolée, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas mes amis ici, c'est pas les personnes, les habitants qu'on croise dans les rues de Saint-Brieuc ou de Bretagne qui se baladent en yacht toute l'année ou en jet privé. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Juste, en fait, il faut arrêter d'être hypocrite et de dire « Oh, on n'augmente pas les impôts ». Non, juste les riches, c'est tout. Ceux qui ont augmenté leur fortune, augmenté leur fortune en 3 ans de 230 milliards d'euros, l'équivalent de 18,8 millions de SMIC quand même.
Alors, il nous reste peu de temps, finalement,
ah non,
ça va très
déjà.
Vite. Voilà. Alors, on va peut-être faire des réponses un petit peu plus courtes,
oui,
ça va nous permettre de balayer encore un ou deux sujets. La taxation des profits, c'est une chose, il y a aussi la construction de l'Europe sociale. Alors, quels sont vos projets pour harmoniser les standards sociaux en Europe? Il y a des disparités entre les différents pays, et puis comment justement réduire ces disparités entre États?
Mais déjà, je crois vous avoir dit à votre antenne la dernière fois qu'on nous vend l'Europe sociale depuis des années, avant même ma naissance, je vais avoir 30 ans cette année. En fait, nous sommes aujourd'hui dans l'Europe du dumping social. C'est ce que je vous avais dit. Il y a le salaire le plus bas en Europe qui est aux alentours de 320 euros, salaire médian, et au Luxembourg de 2700 et quelques euros. Aujourd'hui, on veut faire rentrer des pays qui ont un salaire médian de 120, 200 euros, 300 euros, donc encore plus bas que le salaire médian qui est déjà là. Et donc, ces personnes... À l'époque où on a fait rentrer la Pologne, LVMH, l'homme le plus riche du monde, a déplacé son siège en Pologne. Whirlpool, l'entreprise du nord de la France, a déplacé son siège là-bas parce que les travailleurs coûtent moins cher. Et aussi, c'est des personnes qui vont pouvoir venir travailler en France sans avoir, donc des travails détachés, ça s'appelle, sans avoir droit à la sécurité sociale, au congé payé, donc ils coûtent moins cher. Ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, c'est le dumping fiscal. On a l'Irlande, par exemple, qui a 12,5% de taxes sur les sociétés. C'est très très bas par rapport à... En France, par exemple, c'est 25%. Les pays qu'on veut faire rentrer aujourd'hui, à commencer par l'Ukraine, sont encore plus bas sur la question de la taxation des sociétés. Donc ça, c'est du dumping. Donc les sociétés vont faire quoi? Ils vont déplacer leur siège dans ces pays, ou alors leurs bénéfices directement, c'est plus simple. Et donc plus créer de l'emploi chez nous. Et après, c'est la question écologique. On pourrait reparler de plein de choses, mais la taille des exploitations dans ces pays-là, les conditions salariales, le nombre de bêtes dans les exploitations, les pesticides utilisés, enfin...
Il y a une grande inquiétude des agriculteurs qui reprennent leur combat, qui ne s'était pas éteint finalement.
Mais à raison, il y a un poulet sur deux aujourd'hui qui est consommé en France, qui n'est pas français. On importe du miel d'ailleurs avec une étiquette faite en France juste parce que l'étiquette a été mise en France. Enfin, là, on a vu, les agriculteurs ont fait une action. Il y a des tomates cerises dans les magasins Carrefour qui étaient étiquetées comme venant de France, elles venaient d'Espagne. Et enfin voilà, ils ont rappelé non, alors que eux ont des tomates à vendre, c'est pareil pour le lait importé de Nouvelle-Zélande. Ils ont du lait, eux, nos agriculteurs, hein. Donc évidemment, c'est de leur concurrence déloyale directe pour eux. Tout ça pour répondre à l'Europe du marché, voilà. Et en plus, c'est des produits qui sont remplis de pesticides par rapport à nos agriculteurs, c'est pas possible. Donc moi, je suis pour les pesticides, oui, mais pour tout le monde. Qu'il y en ait pas qui rentrent dans l'Europe alors qu'ils sont interdits.
Ça nous ramène un petit peu aux accords de libre-échange.
Exactement, c'est les accords de libre-échange qui ont un intérêt aussi, c'est que quand on conclut ce genre d'accord-là, l'Europe peut aussi exporter des choses, notamment l'Allemagne avec ses voitures. Là, on a l'accord de libre-échange avec le Mercosur qui est en train d'être discuté. Il a été négocié dans les années 90. Dans les années 90, dedans, il y avait encore l'éthanol, c'est-à-dire sur le sucre, enfin sur les cannes à sucre. C'est hyper polluant comme activité. Bah, il serait temps d'y revenir quand même. Enfin, voilà, un peu de force politique, de courage, de clairvoyance. Mince.
Alors, il nous reste 2 minutes. En 2 minutes, je vais vous demander de vous exprimer sur l'immigration. C'est quelque chose qui inquiète les Français aujourd'hui. Comment vous proposez finalement de réformer le système de Dublin pour une répartition plus équitable des demandeurs d'asile finalement entre les différents pays européens?
Déjà, dire que l'immigration, elle a toujours été levée comme... On déteste des peuples. Par l'histoire, il y a toujours eu des adversaires comme ça. À un moment, même quand on regarde dans l'histoire, il y a eu des Portugais, même les Bretons et les Juifs qui ont beaucoup payé. Aujourd'hui, c'est surtout les personnes immigrées venant d'Afrique et des Maghrébins. Je veux vous dire qu'en France, enfin en Europe, il y a 0,6% seulement de réfugiés. Et donc, faut arrêter de dire que voilà, tous les maux du monde, c'est à cause de l'immigration.
C'est
au contraire,
pas le bon remplacement, finalement.
Mais non, bien sûr, faut arrêter. Ça, c'est une théorie de fou, de Camus, là. Pas le bon Camus qu'on a lu quand on était jeune, mais
non, pas Albert Camus.
Pas Albert Camus, mais enfin, je peux vous dire, c'est aussi le grain à moudre de tous ceux qui surfent sur les inégalités, le fascisme qui monte là-dessus, sur viser un ennemi. Et l'immigration, c'est pas du tout le sujet de tous nos maux. C'est pas eux eux qui sont responsables du changement climatique, de l'austérité, de la casse des services publics, des importations. Enfin voilà, c'est pas l'immigration. Ok, ça c'est nos gouvernements. Et donc ils détournent le regard en pointant l'immigration. L'immigration. Je finis juste parce que c'est la fin. Je veux juste vous dire, c'est la question de notre humanité à la fois, comme ce qu'on disait tout à l'heure. C'est comment on accueille et comment on ne laisse pas mourir 3000 morts l'année dernière dans la Méditerranée, 3800 dans le Sahara. Il est temps d'accueillir et de les accompagner psychologiquement, socialement, et arrêter de les coffrer aux frontières dans des centres indignes. Aujourd'hui, on peut prendre les empreintes digitales d'un enfant de 6 ans et l'enfermer. C'est invraisemblable. Donc nous, on est pour la dignité et l'humanité. Voilà.
C'est là-dessus qu'on va terminer. On est très en retard. Marie Messmer, militante LFI, candidate des Insoumis aux Européennes, 17e sur la liste de l'Union Populaire, conduite par Manon Aubry. Elle était en direct avec nous en studio avec toute sa petite équipe de campagne. Ils ont été sages. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.